Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Gaîté. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de trois cartes blanches, ces épisodes consacrés au travail d'une ou d'un journaliste de la région qui n'est pas paru dans un de nos médias partenaires. Deuxième volet de ce triptyque consacré au thème de la spoliation des biens juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Trois épisodes comme autant d'articles publiés sur le sujet sur Slate.fr, dont le dernier est paru le 28 décembre dernier. Le deuxième que nous allons évoquer aujourd'hui s'appelle Rose Vallant, la résistante oubliée. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Marion Casanov.
Bonjour Jean.
Marion, votre deuxième article est consacré à une femme qui s'appelle Rose Vallant. C'est une résistante quelque peu oubliée du grand public. Et pourtant, elle a joué un rôle majeur dans la restitution des biens juifs à leurs propriétaires légitimes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Rose Vallant au moment où la guerre éclate? Que fait-elle et dans quel milieu a-t-elle grandi?
Alors Rose Vallant, elle est née dans l'Isère, elle a fait des études de culturelles.
Elle grandit en Isère dans une famille qui n'a aucun lien avec le milieu de l'art, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, une famille modeste, rien ne l'a prédestinée un peu à faire des études comme ça, très pointues et très poussées, ni à monter à Paris. Pendant la guerre, elle est attachée de conservation au musée du Jeu de Paume.
Alors à ce poste que vous venez d'évoquer, Rose Vallant entre très vite en résistance. Vous l'écrivez, il ne s'agit pas pour elle de faire sauter des trains par exemple, mais elle va inlassablement recenser les œuvres d'art qui sont emportées par les Allemands, c'est bien ça? De quelle manière s'y prend-elle?
Alors voilà, c'est pour ça qu'elle est moins connue, c'est parce qu'elle elle se contente, entre guillemets, parce que c'est déjà énorme, de prendre des notes où elle espionne en fait les allées et venues des nazis au Jeu de Paume, parce que les nazis ont pris ce musée pour... ils y entassent tout un tas de choses, notamment des œuvres d'art spoliées. Donc elle prend des notes des allées et venues, des œuvres qui y sont déposées, elle tient un espèce de journal de bord pour dire qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il s'est passé tel jour, etc. Donc en fait, c'est des notes finalement très précieuses, parce qu'à la fin de la guerre... grâce à elle, on a un aperçu de tout ce qu'il s'est passé pendant 5 ans. Et en fait, elle aurait pu mourir, elle aurait pu être tuée pour ça si quelqu'un était tombé sur ses notes.
Oui, parce que son travail n'en est pas moins courageux. Elle risque sa vie, hein, parce que son manège, si j'ose dire, est rapidement repéré. Elle est très clairement menacée.
Elle est menacée. Il y a même un officier, je crois, nazi, qui avait prévu de la faire déporter de toute façon à la fin de la guerre, parce qu'elle était trop gênante. Elle a été plusieurs fois même... on lui a dit plusieurs fois de partir, de pas revenir, puis elle n'écoute que son courage et elle revient à chaque fois. Et donc cette femme trop encombrante, on pense déjà à la déporter.
Oui, il semble qu'elle ait eu à la fois un courage et un caractère bien trempé apparemment.
Oui, c'est vrai qu'elle avait un sacré caractère, c'est ce qui est ressorti des interviews que j'ai eues. Elle se laissait pas marcher sur les pieds. D'ailleurs, une femme à cette époque... déjà attaché de conservation, c'est pas mal. Et puis avec autant d'acharnement et de courage, c'était pas forcément courant. Elle osait aussi dire non à des avances de soldats nazis, etc. Donc oui, elle avait du caractère.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris. Mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage.
C'est aussi, on l'a dit, une grande amoureuse d'art, et il y a une scène en particulier qui va la marquer très profondément, c'est celle d'un autodafé au cœur de Paris.
Oui, c'est ce que je raconte dans le début de mon article. Elle se rend compte en sortant du musée du Jeu de Paume qu'il y a plein de tableaux, d'œuvres d'art mais magistrales qui sont en train de partir en fumée. Donc c'est ce que je dis, des tableaux de Picasso, de Paul Klee ou de Miro qui sont brûlés parce que les nazis considèrent que c'est de l'art dégénéré. Entart était Kunst en allemand, même si vous le voulez, enfin si vous voulez le mot. Et donc pour eux, il fallait détruire cette culture dégénérée qui faisait des peintures bizarres. Et donc pour elles, c'était tout un pan de la culture qui partait en fumée.
Paul Klee, que vous évoquez, qui a fait l'objet d'un épisode de podcasting à l'occasion de sa rétrospective au Bassin des Lumières à Bordeaux. On estime qu'après la guerre, vous l'avez évoqué, plus de 60 000 œuvres d'art ont été rendues à leurs propriétaires ou à leurs familles grâce au travail de Rose Vallant. C'est un chiffre colossal.
Oui, c'est quand même énorme que grâce à une seule personne, on ait pu retrouver la trace de 60 000 objets. Donc ça, c'est grâce tout simplement aux notes qu'elle a pu tenir. Et elle est partie une fois en Europe de l'Est pour partir, pour récupérer en fait ses œuvres. Elle a fait son travail jusqu'au bout. Elle ne s'est pas contentée de rester au musée du jeu de paume. Grâce à ses renseignements d'espionne, elle est allée jusqu'en Europe de l'Est. Et donc certains objets d'art ont pu retrouver leur famille. Et puis après, pour certains, d'autres déportés ne sont jamais revenus des camps, donc pour d'autres, effectivement, ils ont été placés dans des musées.
Oui, le travail de Rose Vallant, son sacerdoce quasiment, a duré plus d'une dizaine d'années après la guerre.
Plus d'une dizaine d'années, elle a continué un peu à se battre pour la restitution, mais ça a été très compliqué parce qu'au sortir de la guerre, déjà, il y avait un petit peu cet état d'esprit de « il faut oublier, il faut passer à autre chose, il faut arrêter de travailler là-dessus », etc. C'était un peu la devise presque de De Gaulle qui disait voilà, il faut pardonner, il faut oublier. Et donc c'était pas forcément très bien vu qu'elle continue à travailler là-dessus. Et puis après on lui a demandé d'arrêter carrément de travailler là-dessus, ou alors beaucoup moins quoi. Même après la guerre, elle a été gênante un petit peu pour le milieu de la culture, cette femme qui s'acharnait à vouloir rendre des tableaux alors que tout ce qu'on voulait c'était oublier la guerre.
Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait imaginer qu'après la guerre, la France soit reconnaissante à l'égard de cette héroïne, mais vous venez de le dire, ce n'est pas tout à fait le cas. Quelle va être la suite de sa carrière ?
En 52, elle obtient enfin un titre de conservatrice, parce que jusqu'ici, elle restait attachée de conservation. Donc elle est conservatrice aux musées nationaux, mais c'est un statut qu'on lui donne un peu à contre-cœur. Ça, c'est ce que me raconte l'historienne Ophélie Jouan. Ses collègues n'étaient pas toujours bien disposés à son égard, parce que déjà, c'était une femme, et puis en plus, elle se sentait un petit peu incomprise. On ne comprenait pas trop son combat pour la restitution. En 52, c'était déjà... c'était plus très très bien vu, quoi.
On va évoquer dans un instant sa vie privée, mais c'est cela qui explique, selon vous, que Rose Vallant n'ait pas eu immédiatement cette reconnaissance qu'elle méritait. C'est cet acharnement à remuer, finalement, des sujets qui dérangeaient.
Oui, exactement. Je pense que c'est... Enfin, je pense, les historiens pensent... Enfin, disent que c'est à cause de ce devoir de mémoire accompli, de ce travail qui en fait était un petit peu gênant effectivement après la guerre, où vraiment c'était pas le moment, on pensait plutôt à reconstruire, à aller de l'avant, et donc cet état d'esprit ne plaisait pas du tout. Et elle a été réhabilitée beaucoup plus tard, un peu avant sa mort quoi, où elle a eu beaucoup quand même, elle a été quand même pas mal décorée, où on a reconnu tout son travail, etc. Mais ça, c'était une fois que toute la douleur de la guerre, enfin une fois que la guerre était passée depuis des années, c'est là qu'on s'est remis, qu'on y a repensé, qu'on a repensé à elle et qu'on s'est dit bon, quand même, elle a fait un travail incroyable, elle mérite quand même un minimum de reconnaissance.
Alors Rose Vallant a été relativement discrète sur sa vie privée, pourtant elle a toujours assumé sa relation avec une femme, une américaine, Joyce Heer. Vous pensez que son homosexualité a pu desservir aussi sa carrière, voire la reconnaissance que la France lui apportait ? C'est ce que pensent en tout cas les historiens ?
Non, pas tant que ça, parce que c'était vraiment peu connu. C'était quand même dans sa vie privée, même si elle ne s'en cachait pas spécialement. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est revenu dans les interviews que j'ai pu faire, parce que plus globalement, c'est le fait déjà d'être une femme à l'époque, c'était déjà assez handicapant. Après, je pense pas que son homosexualité ait joué les desservie encore plus, parce que de toute façon, elle a déjà été pas mal ignorée de son vivant.
Alors il y a eu, vous l'avez dit, une reconnaissance tardive que Rose Valland a obtenue de la part de la France, et il y a eu une autre reconnaissance qui se situe, elle, sur le terrain de la culture. On la retrouve, Rose Valland, sous son nom ou pas, dans plusieurs œuvres majeures.
Ah oui, absolument. On la retrouve dans le film Monuments Men, où on peut voir George Clooney dedans. Et c'est un film consacré un peu au thème du pillage d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Cate Blanchett joue une Rose Valland qui porte pas le même nom, mais c'est un peu un semblant de Rose Valland. En tout cas, elle inspire un vrai personnage dans ce film.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, le nom de Rose Valland sera aussi connu que celui de résistante ou de résistant qui aujourd'hui sont connus de quasiment tous les Français ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce n'est pas une résistante qui a fait sauter des trains, ce n'est pas une résistante qui a caché des enfants juifs. Et donc, pour cela, je pense qu'elle est, entre guillemets, on la considère comme moins héroïque que Jean Moulin. Et on oublie un petit peu, je trouve, ce pan de la culture. Et même s'il y a un collège maintenant qui porte son nom, même s'il y a une plaque sur le musée du Jeu de Paume, c'est quand même une femme qui est connue dans le milieu de la culture. C'est une femme qui a été reconnue aussi par l'État. Le grand public, je ne pense pas qu'ils pourront... je ne suis pas sûre qu'elle soit un peu plus connue, même si maintenant il y a des expositions qui sont faites, etc. 70 ans après la guerre, de toute façon, je trouve qu'on commence petit à petit à oublier les noms de ces résistants. Et donc, pourquoi pas... Enfin, je vois pas pourquoi elle y échapperait, malheureusement, aussi.
Merci beaucoup, Marion Casanov, d'être venue au micro de Podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru sur Slate.fr, « Rose Valland, la résistante oubliée ». Nous vous retrouvons demain pour le dernier des trois épisodes consacrés à la spoliation des biens juifs. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Leuil et Marion Ruault. Programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.